Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Mustapha Mamansani de la radio Gaskia, une des radios partenaires du studio Kalangou dans la ville de Zender. Le forum, c'est un rappel, est diffusé via un réseau dynamique de 46 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Chukura sur le 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème gestion du foncier dans la ville de Zender. Quels défis pour une meilleure gouvernance du secteur? Ce forum tournera autour de trois axes suivants, à savoir le point sur les lotissements réalisés et en cours, les problèmes rencontrés dans la vente des parcelles à Zender, les défis et perspectives pour une meilleure gouvernance de ce secteur. Pour en parler, nous sommes dans la cour de la radio Gaskia avec M. Maman Gentil, il est le secrétaire général de la ville de Zender. Nous avons également Dr. Adamou Abdoulaye, géographe urbain, enseignant-chercheur à l'université de Zender. Docteur, bonjour. Nous avons également avec nous le magistrat M. Mamadou Niandou Boubacar, conseiller à la cour d'appel de Zender. M. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également avec nous Sadat Iliad Amalem, il est géographe et également acteur de la société civile à Zender. Sadat, bonjour.
Bonjour.
Le Niger s'est engagé depuis une dizaine d'années dans le processus de décentralisation qui met la question foncière au centre des préoccupations. Zender est une ville précoloniale qui a connu de nombreux découpages administratifs. Le dernier l'a érigé en ville composée de 5 arrondissements communaux. C'est la deuxième plus grande ville du Niger en termes d'habitants après Niamey. Elle a aussi une croissance urbaine rapide à l'image des autres centres urbains du pays. La ville s'étale considérablement en réaction à la forte croissance démographique, ce qui induit un besoin croissant en logement qui se traduit par une urbanisation incontrôlée qui pousse à des pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques. La superficie de la ville est passée de 1397,87 hectares en 1986 à 2179,88 hectares en 2011. Elle a presque doublé en 24 ans compte tenu de l'accroissement des spéculations foncières selon Nuhu dans ses recherches en 2009. Cet étalement de la ville n'est pas souvent accompagné d'infrastructures adéquates, ce qui pose un autre problème de viabilisation des terrains lotis. La gestion donc des parcelles et le lotissement font l'objet ces derniers temps de beaucoup de conflits. Plusieurs propriétaires se retrouvent deux fois sur une même parcelle et cela engendre souvent des conflits. Il y a aussi la gestion de certains sites attribués déjà à des secteurs tels que l'éducation ou la santé qui sont réattribués à des particuliers. La gestion peu rationnelle et incontrôlée du foncier aura pour corollaire des lotissements tous azimuts et des morcellements des espaces d'usage productif. Pour commencer, ma première question s'adresse au secrétaire général de la ville. Pouvez-vous nous donner des détails sur le nombre de lotissements prévus et le nombre de lotissements exécutés à ce jour sur l'ensemble du territoire de la ville de Zender?
Des lotissements qui ont des arrêtés, il y a d'autres lotissements qui n'ont pas d'arrêtés. Les lotissements qui n'ont pas d'arrêtés, la plupart des lotissements, c'est quand on n'était pas aux affaires. Maintenant, quand au titre de la continuité du service public, le maire a pris l'engagement avec le staff, on a régularisé cette situation. Si c'était effectivement dans mon bureau, je vais te montrer l'ensemble des lotissements qui ont un arrêté qui a respecté la procédure. Il faut reconnaître, à un certain moment donné de l'histoire, l'État souverain a laissé les cabinets privés faire des lotissements. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des situations qui achètent des champs et qui trouvent un cabinet privé qui fait des lotissements et ça leur revient. Mais maintenant, comme effectivement ils ne peuvent pas délivrer des actes de cession, c'est en ce temps-là que la mairie rentre en jeu. Et quand vous faites un lotissement, j'ai dit, c'est par rapport au titre foncier. Vous avez un titre foncier, vous n'avez pas de titre foncier parce que la mairie qui va vous fournir des actes, c'est en ce temps-là que vous allez lui donner sa part parce que la mairie n'a pas de terrain. Les terrains, c'est pour les propriétaires terriens, c'est pour dire qu'on ne peut pas cerner le nombre de lotissements seulement parce que les privés en ont fait. C'est beaucoup dans cette ville de Zender.
Docteur Lai, comment appréciez-vous l'urbanisation et la dynamique des ventes des parcelles ici à Zender?
Merci, Monsieur Mamansani. Par rapport à l'urbanisation à Zender, c'est une urbanisation rapide que Zender connaît, une urbanisation qui s'est faite Selon les données de l'INS, Zender a un taux de croissance de 4,7%. C'est une urbanisation rapide. C'est le même taux que Niamey avait observé entre 1988 et 2001. Et Zender est passé du recensement de 1977 de 53 700 habitants à aujourd'hui, en 2020, selon les projections toujours de l'INS, à 444 000 habitants. C'est une croissance rapide, fulgurante. Aujourd'hui, Zender croît deux fois plus rapidement que Niamey. Donc il fallait trouver les moyens de soutenir cette croissance. Or, nous avons en face des municipalités qui n'ont pas assez de ressources, qui n'ont pas les moyens de leur politique, et cela ouvre la voie à beaucoup de malversations. Face à ce problème de mobilisation de ressources pour financer les projets, pour soutenir les salaires des agents et autres, la seule ressource disponible, c'est le foncier. Et ce qui fait qu'il y a eu des lotissements effrénés qui sont plus ou moins justifiés. Et cela a des impacts sur la forme de la ville et aussi sur les conditions de vie, la qualité de vie des populations.
Merci docteur. Monsieur Sadat Elia, vous êtes acteur de la société civile. Quelle analyse faites-vous de l'évolution de la ville de Zender en termes d'extension?
Merci Monsieur Mamassani de nous accorder cette opportunité. Comme l'a dit le docteur, il y a une forte croissance urbaine, n'est-ce pas, due à l'accroissement rapide de la population de la ville de Zender qui crée des besoins liés donc au logement, à la création d'autres infrastructures sociaux ou économiques qui accompagnent donc cette croissance démographique. Effectivement, on observe une forte croissance de l'armature urbaine du fait de la croissance démographique. Seulement ce que nous pouvons dire par rapport à la croissance ou à l'extension de la ville de Zender, ce n'est pas toujours que cette extension-là respecte les procédures administratives, puis les zones en extension ne sont pas viabilisées, vous l'avez dit dans votre commentaire sommaire, ce qui fait que vous pouvez voir des quartiers poussés, sans eau, sans électricité, sans ouvrage de canalisation, etc., etc. Donc, qui handicapent malheureusement cette croissance de l'extension de la ville de Zender.
D'accord. Monsieur Mamadou, vous êtes conseiller juridique au niveau de la cour d'appel de Zender. De quel délai dispose donc le propriétaire d'un terrain pour mettre en valeur son terrain?
Merci. En fait, je suis conseiller à la cour d'appel de Zender, pas conseiller juridique. Il faut noter que sur ce domaine, le Niger dispose toujours d'une très vieille législation qui date en réalité même du temps de la colonisation, si on peut le dire. Hein. Donc c'est un texte de 1959 qui est toujours donc en vigueur. De juillet 59, si ma mémoire est bonne, ce sont deux ordonnances qui organisent cet aspect au niveau du foncier urbain d'habitation. Voilà, parce que l'autre texte parle surtout de ceux qui veulent édifier par exemple donc un certain nombre d'usines et autres quoi. Il y a un autre texte qui parle de l'habitation. Ce texte-là soumet à celui qui acquiert un permis urbain d'habiter, qui a un peu évolué pour devenir acte de cession d'immeubles non bâtis.
Nous allons continuer avec le SG de la ville. Certains accusent la mairie du manque de prévision à long terme sur les lotissements ou encore la non-prise en compte des sites de loisirs, des sports, des sites pour l'éducation, la santé, etc. Que répondez-vous, monsieur le SG?
C'est partout au Niger, c'est pas à Zender seulement. Ouais, et l'être humain, il est ce qu'il est. Est-ce que vous savez, nous sommes la mairie qui a subi plus d'inspections au niveau du Niger, plus de 10. Il y a tous les corps d'inspection sont venus à la Cour des comptes. Ils sont venus spécialement parce qu'il y a eu beaucoup de racontages sur les lotissements. On a travaillé pendant combien de temps? Et l'équipe a travaillé, elle a fait le terrain, elle a identifié, elle a vu ce qu'on dit et la réalité, elle a vu, il y a un écart.
Docteur Abdoulaye, que pensez-vous des lotissements? Vous êtes un observateur averti. Pensez-vous qu'elles tiennent compte des besoins sociaux?
Les lotissements que nous avons, nous parlions tout à l'heure de lotissements répétitifs. En réalité, les lotissements qu'on fait, surtout depuis la période de la démocratisation du pays, et pire encore, sous la décentralisation, on a assisté à des lotissements répétitifs qui répondent non pas aux besoins réels des populations, mais aux besoins de la mairie et aux besoins des spéculateurs. La documentation que nous avons eue, en nous appuyant sur le plan urbain de référence de la mairie, et aussi sur nos propres recherches, nous nous rendons compte que la ville de Zender, en termes d'extension, augmente chaque année de 302 hectares. ce n'est pas le besoin réel de la population de Zinder. La population de Zinder est sur la base des informations que nous avons eues sur le PUR, qui ont fait une étude des lotissements de 2013 à 2016, on se rend compte que la ville de Zinder produit 2902 parcelles par an en moyenne. Alors que le besoin réel que nous avons eu à estimer, c'est autour de 1100 parcelles par an pour la ville de Zinder. Puisque la population de Zinder accueille chaque année autour de 14 000 habitants. Il nous faut créer chaque année dans la ville de Zinder 2 000 logements. Je n'ai pas dit 2 parcelles, 2 000 logements. Et Zinder ayant 1,8 ménages par parcelle, puisque les Zinderois n'aiment pas la cohabitation. Ce n'est pas comme à Niamey, à Marad. Chacun veut avoir sa propre maison, même si c'est une petite maison. Et la taille moyenne de la parcelle à Zinder, d'après nos investigations, c'est 337 mètres carrés. Quand nous mettons tout cela ensemble, nous avons eu un besoin réel exprimé par la population de Zinder chaque année, par exemple, d'une moyenne de 1100 parcelles à produire. Les informations que nous avons recueillies dans le PUR, je ne sais pas si ça a été validé ou pas. Quand on fait l'extrapolation, on va se retrouver avec 2900 parcelles produites. C'est un décalage total avec le besoin réel. Soit 1800 parcelles produites de plus dont on n'a pas besoin. Et ces 1800 parcelles-là, c'est soumis à la spéculation, puisque nous n'en avons pas besoin tout de suite. Ce qui fait que dans la ville de Zinder, des quartiers qui ont été créés en 1980, aujourd'hui encore, on continue de voir des poches, des parcelles non construites. Et à la périphérie, nous avons estimé une parcelle sur deux n'est pas construite. Et encore, on fait d'autres lotissements. Et même quand on crée des parcelles, on fait des lotissements sociaux, c'est-à-dire qui est destiné à la grande masse. On se retrouve que ces parcelles-là sont accaparées par les spéculateurs, les gros bonnets. Une seule personne va se retrouver avec 5, 10, 20 parcelles qui lui appartiennent. Les vrais demandeurs attendent toujours.
Certains terrains qui doivent normalement dans les lotissements être prévus, notamment par exemple les terrains de jeu, les écoles, etc. Est-ce que les lotissements prennent ça en compte?
Oui, les lotissements tiennent compte de tout cela, puisque sinon ça n'allait pas passer à la direction de l'urbanisme et autres. D'ailleurs, ils augmentent même la place réservée aux équipements pour pouvoir venir spéculer après. Une école, on réserve 5 hectares, on grignote sur ça, on laisse les 2 hectares à l'école. L'école n'a pas de cours. Or, dans notre plan d'urbanisme, généralement, là où vous avez une école, vous avez des aires de jeu, vous avez des lieux de réunion, vous avez tout que les populations riveraines peuvent venir faire leur distraction. Et c'est ça, vous allez voir les parcelles bis, terre, car ce sont des parcelles qui sont issues des morcellements, des réserves foncières qui existent déjà, qui ont été planifiées. Et j'ai vu là où des routes ont été
morcelées et vendues. Morcelées.
Voilà.
Voilà, merci docteur. Donc, je viens à vous, Sadat, il y a à qui la faute si les lotisseurs privés ne prennent pas en compte les besoins sociaux?
Je ne sais pas si on peut faire un lotissement effectivement sans prendre en compte les besoins sociaux, parce que généralement la procédure même prévoit quand même que cela soit prévu. Je crois qu'il y a une proportion qui doit être réservée à ce genre d'équipement, mais si il arrive qu'on les fasse quand même sans prendre en compte ce genre de choses, moi je dirais que c'est la faute à l'administration, parce que c'est elle qui autorise et qui doit effectivement veiller à ce que ça soit fait dans le respect de la règle.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a des contournements qui se font. Alors, qui peut, par exemple, se lever un jour pour aller faire le suivi?
Par rapport à ça, nous, ce que nous avons compris, puisque nous avons un peu suivi depuis des années cette affaire, c'est un problème même de fonctionnement de la commission d'urbanisation. Parce que normalement, ce genre d'activité, tous les documents de planification urbaine doivent se faire d'abord en commission. Après la commission, il y a des analyses techniques qui doivent se faire. Et c'est le cas pour les reclassements, parce que généralement, les morcellements là, on les fait sur la base des reclassements, après une proposition de reclassement qui a été faite, c'est-à-dire si on décide de changer l'orientation d'un terrain, normalement ça doit passer par là. Mais nous avons comme l'impression que tous ces dispositifs-là ne fonctionnent pas, et que parfois même les certificats de conformité n'est pas tout à fait établi dans les normes, quoi. Donc vraiment tout ça là, ce sont ces problèmes-là qui font que vous pouvez voir les gens faire des morcellements comme ils veulent, n'est-ce pas, vendre des terrains appartenant à des établissements. Moi, j'ai vu de ce genre de terrains qui ont été vendus pour faire des sièges des partis politiques. Ici, nous l'avons dénoncé ici avec vous. Alors que quand vous prenez le document initial, vous allez voir que toute cette zone-là, c'est une zone qui est destinée à des infrastructures, n'est-ce pas, éducatives. Ensuite, il n'y a pas aussi le respect de certaines normes urbaines, comme on les constate ailleurs, où même les terrains ont une certaine fonction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver les zones administratives qui se mélangent avec des habitations, mais aujourd'hui c'est le cas. Vous pouvez trouver des entreprises gazières, moi j'ai vu, qui qui partagent des murs avec des habitations. Donc si ça arrive vraiment, c'est la faute à l'administration qui n'a pas veillé au contrôle des respects de tous les processus. Ce que nous avons compris, puisque nous avons un peu suivi depuis des années cette affaire, c'est un problème même de fonctionnement de la commission d'urbanisation. Parce que normalement, ce genre d'activité, tous les documents de planification urbaine doivent se faire d'abord en commission. Après la commission, il y a des analyses techniques qui doivent se faire. Et c'est le cas pour les reclassements, parce que généralement, les morcellements là, on les fait sur la base des reclassements, après une proposition de reclassement qui a été faite. C'est-à-dire, si on décide de changer l'orientation d'un terrain, normalement, ça doit passer par là. Mais nous avons comme l'impression que tous ces dispositifs-là ne fonctionnent pas et que parfois même les certificats de conformité n'est pas tout à fait établi dans les normes, quoi. Donc vraiment, tout ça là, ce sont ces problèmes-là qui font que vous pouvez voir les gens faire des morcellements comme ils veulent, n'est-ce pas, vendre des terrains appartenant à des établissements. Moi, j'ai vu de ces genres de terrains qui ont été vendus pour faire des sièges des partis politiques. Ici, nous l'avons dénoncé ici avec vous. Alors que quand vous prenez le document initial, vous allez voir que toute cette zone-là, c'est une zone qui est destinée à des infrastructures, n'est-ce pas, éducatives. Ensuite, il n'y a pas aussi le respect de certaines normes urbaines, comme on les constate ailleurs, où même les terrains ont une certaine fonction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver les zones administratives qui se mélangent avec des habitations, mais aujourd'hui c'est le cas. Vous pouvez trouver des entreprises gazières, moi j'ai vu, qui partagent des murs avec des habitations. Donc si ça arrive vraiment, c'est la faute à l'administration qui n'a pas veillé au contrôle des respects de tous les processus.
Justement, monsieur Niandou Mamadou, donc à quand est-ce que le maire peut alors retirer une parcelle?
Celui qui acquiert une parcelle, il a l'obligation de la mettre en valeur. S'il ne le fait pas, l'autorité administrative donc, qui lui a délivré cet acte-là peut le retirer dans un délai de 4 ans. Mais bien avant donc ce délai, il y a d'autres délais, notamment celui du paiement. Parce que des fois, on attribue des parcelles à des gens qui ne payent pas. Et l'autorité administrative retire ça. Et ça fait l'objet du contentieux. Alors, tout celui qui acquiert une parcelle a l'obligation de payer le prix et d'autres taxes. Et l'obligation de l'enregistrer. Ce qui ne se fait pas la plupart du temps. Donc tout ça, là, c'est un ensemble de taxes que l'acquéreur doit payer dans un délai d'un mois à partir donc de la date de la délivrance de ce permis ou bien de cet acte de cession. Et il a l'obligation également, dès qu'on lui délivre ce permis ou bien cet acte-là, il a l'obligation, à partir de cette date-là, dans un délai de 3 mois, de faire une demeure de construire. Cela veut dire que là aussi, s'il ne respecte pas ce délai-là, on peut également retirer la parcelle. Et à partir de l'approbation donc de sa demande de construire, il a un délai de 4 ans. Pour le faire. Ce délai peut être prolongé dans certaines conditions, quoi. Tout ça là est rappelé en réalité dans les actes de cession. Mais pour retirer également, ce n'est pas un acte banal qu'on doit faire. Ce qui fait que des fois, la mairie retire, mais quand on vient au niveau de la justice, on annule sa réalité. Parce que le fait de retirer, c'est un acte administratif. Il obéit à un certain nombre de formes. Cette même loi de 1959 dit que c'est une commission qui doit statuer pour proposer au maire. Et c'est obligatoire. Cette commission, donc, elle est composée du maire, des représentants du domaine, d'un représentant du service de l'hygiène et d'assainissement et d'un représentant du service des travaux publics. La commission vient d'abord pour constater que tout ce qu'on a demandé à l'acquéreur, il ne l'a pas fait. Elle dresse un PV. C'est à la suite donc de ce PV-là que le maire va prendre un autre acte pour retirer donc la parcelle et pouvoir la vendre. Mais malheureusement, des fois, on a constaté que le maire, il s'enferme avec, une ou deux personnes et il retire. En principe, quand il y a lotissement, le lotisseur a une obligation de viabiliser l'endroit. Malheureusement, donc comme ils ont eu à le constater, c'est que l'autorité qui décide du lotissement n'est pas en train de prendre donc les besoins réels. C'est ce qui fait qu'il y a un lotissement, j'allais dire même sauvage. Les gens ne peuvent pas, par exemple, donc venir, même si les délais là sont dépassés.
On observe ces dernières années beaucoup de problèmes sur la vente des parcelles à Zender où plusieurs litiges sont gérés. Je vous propose d'écouter quelques témoignages de problèmes rencontrés par des habitants de la ville de Zender au sujet de la vente ou de l'achat des parcelles.
Effectivement, je suis victime d'un doublon d'une parcelle qu'on a acquise depuis 2009. Maintenant, à notre grande surprise, quand on était parti vérifier, il y avait quelqu'un qui a construit déjà la parcelle. Maintenant, on est obligé de se référer au niveau de la souche, donc la souche qui se trouve au niveau de la mairie centrale. De là, on a comparé les deux actes de cession. et ces deux actes de cession sont tous délivrés la même année. Il faut maintenant regarder qui est le premier à acheter la parcelle. Et donc, quand on a remonté les données, on a constaté que nous sommes les premiers à acquérir la parcelle. Donc, d'office, la parcelle doit nous revenir. Mais malheureusement, la mairie n'a pas pu, en ce temps-là, vraiment trancher. Et l'autre, lui aussi, il dit que c'est la mairie qui lui a vendu la parcelle. Nous aussi, c'est ça. Et j'ai fait ces tracasseries pendant 2 à 3 ans. Il a fallu que j'amène même l'affaire au niveau de la justice. Auprès du procureur, le chef des affaires domaniales a fait une proposition pour me dire, bon, d'abord, on va aller faire le prix de la parcelle actuellement, puisque c'est acquéri depuis 2009. Maintenant, la valeur va changer. On a pris les intermédiaires, on a évalué la parcelle à 2 millions. Maintenant, on dit, la mairie n'a pas d'argent pour me rembourser, mais la mairie va me donner encore d'autres parcelles. J'ai dit, bon, puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment des problèmes, démolir, dire que c'est ma première parcelle que je veux, vraiment à l'amiable, j'accepte. Et là aussi, pour avoir les 2 millions et les dédommagements de quelques parcelles, il a fallu plus d'un an. Maintenant, j'ai eu les dédommagements, on m'a donné 10 parcelles. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu identifier ces parcelles-là. Voilà comment on a trouvé une solution qui, jusqu'à présent, c'est pas terminé. Du moins que je ne sais même pas là où on m'a amené, il faut aller d'abord constater c'est où se trouvent ces parcelles qu'on nous a attribuées. Est-ce que là aussi, ce n'est pas les parcelles d'une tierce? Ça peut arriver. Et donc, cet état de fait est courant au niveau de la ville des Zender. Et ça, vous allez le constater juste avec la prolifération des rabatteurs et des intermédiaires qui sont là aux aguets. Vous allez voir quand vous partez au niveau de la mairie centrale, juste à la devanture, vous allez voir, on dirait qu'un marché. Et ils sont aussi à la base de toute cette confusion qu'on constate au niveau de la ville des Andères. Et maintenant, quand vous partez à la mairie, vous demandez les affaires en ce qui concerne les fonciers à Zender, vous allez attraper la tête. Et les responsables de nos villes doivent prendre leur courage en main pour respecter d'abord. Zender, c'est une vieille ville. On devrait avoir au moins les plans urbains de référence.
Que dites-vous par rapport à ces doublons? Oui. Est-ce que vous reconnaissez d'abord qu'il y a l'existence des doublons?
Les doublons, c'est trop dire. On ne peut pas faire du doublon sciemment. Ça veut dire que c'est l'organisation administrative. Ce sont des propriétaires terriens. Vous avez un engouement de population. Maintenant, lors de lotissement, on peut se tromper.
Mais on peut faire deux lotissements.
Ce n'est pas deux lotissements. On peut se tromper sur les actes, pensant que vous êtes venu à la parcelle A, tandis que c'est la parcelle B. Et généralement, les problèmes qui se passent, c'est surtout ceux qui ne sont pas du corps, qui font de ça un métier. Dès qu'il y a un lotissement, c'est eux qui prennent les trucs comme ça, ils montrent les parcelles au niveau des propriétaires terriens, des trucs comme ça pour vendre, et ils se sont trompés de numéro. Moi, maintes fois, dans mon bureau, j'ai réglé ce problème. Les gens voulaient même s'amener à des coups. C'est après, maintenant, quand je fais venir Mahamadou, on se rend sur le terrain, c'est en ce temps-là qu'on constate que le monsieur, là, c'est la parcelle A qui l'appartient et l'autre, c'est la parcelle B. Ils se sont trompés, tout juste parce que l'identification, il faut être un spécialiste pour identifier.
Donc, on peut parler d'incompétence à ce niveau.
Pas incompétence, c'est pas l'incompétence, c'est ceux qui rentrent en jeu, qui sont incompétents. C'est quoi, je vais demander les démarcheurs. Ils ne sont pas formels. Eux, quand vous avez, il y a des gens qui prennent des privés, quand vous avez votre leçon, ils ont un plan, allez-y nous montrer la parcelle. C'est pas, la mairie ne peut pas se tromper puisqu'ils sont compétents. C'est leur compétence et c'est leur prérogative.
Docteur, au vu de la situation actuelle et de vos recherches, peut-on parler d'insécurité foncière à Zender?
On parle bien sûr d'insécurité foncière à Zender. J'aimerais rebondir sur le témoignage que je viens d'entendre. Ce qu'il a dit est un cas fréquent à Zender. À travers nos enquêtes, nous avons découvert qu'il y a au moins 400 parcelles, pour ne pas aller au-delà, dont les gens ont les actes de cession, mais ils n'ont pas encore vu sur le terrain leurs parcelles. Aujourd'hui, les problèmes sont tels que le service des affaires domaniales, qui est un service chargé de la planification, de l'aménagement foncier, et aussi un service chargé de la gestion de l'information foncière à Zender. Ce service-là est aujourd'hui pris d'assaut par les démarcheurs. Moi, j'ai fait un article que j'ai publié à l'université Abomey-Calavi où j'ai parlé du démarcheur, un tremplin pour les acteurs de la gestion urbaine. En réalité, chaque démarcheur a son représentant à la mairie. Ils n'agissent pas comme ça parce qu'eux, ils sont dans l'informel. ils n'ont aucun serment et donc ils peuvent jouer le rôle de fusibles pour tout le monde. Et tout le monde les utilise et souvent eux-mêmes sont dribblés. Et par rapport à ça, nous avons dit que la gestion foncière à Zender est une nébuleuse. On a créé un système qui ne permet pas de situer les responsabilités. Et on met tout sur le dos des démarcheurs. J'avais enquêté 42 démarcheurs. Sur les 42, 16 ont eu un problème qui les a amenés jusqu'à la justice. 6 ont été condamnés. Les 10 ont été effectivement sauvés par le service des affaires domaniales de la mairie qui a remboursé à leur place. J'ai encore travaillé sur la morphologie urbaine de Zender, la mise en valeur des parcelles. Nous produisons des parcelles, mais on n'a pas une politique de logement. Ce qui fait qu'on produit les parcelles, les gens n'ont pas les moyens pour les mettre en valeur. Comment vous allez pouvoir les retirer? Et si j'abonde dans le sens de ce que M. Nyandou vient de dire, vous n'avez pas viabilisé les parcelles. Vous n'avez pas respecté la procédure même de lotissement. Nous avons identifié sur 17 lotissements avec les étudiants de licence professionnelle en gestion urbaine. Il n'y a que 2 qui avaient un arrêté. La procédure que Sadat vient de dire, c'est-à-dire passer par la commission, avoir l'autorisation de lotir et validée par le ministre en conseil des ministres. Et on a fait les lotissements pourtant et c'est après qu'on régularise. Et nous parlons d'urbanisme de rattrapage pour que le lotissement ne soit annulé puisque Niamey a déjà annulé plusieurs lotissements par rapport à cette question. Je parle sous le contrôle de M. Nyandou. Et il y a aussi l'influence des politiques et l'influence coutumière. Aujourd'hui, si le sultanat donne une terre aux gens, un agent de l'État est trop petit ou bien de la mairie est trop petit pour le lui retirer. Et aussi les influences politiques.
Nous allons continuer avec vous, M. Sadat. Quelle est votre contribution dans la résolution de ce genre de problèmes?
La contribution que nous donnons, nous, dans le cadre de la gestion de ces problèmes, c'est d'avoir la communication. Parce que le premier moyen de gestion d'un problème, c'est de communiquer sur le problème. Par exemple, d'expliquer la procédure administrative elle-même. Malheureusement, même au niveau de l'administration, on constate qu'on ne maîtrise pas beaucoup la procédure. Et puis, du côté aussi de la population, il y a une ignorance de cette procédure-là. En réalité, même les délais de ce qu'on appelle la publicité foncière, il n'y a pas eu de publicité foncière qui va permettre d'informer tous ceux qui ont un intérêt dans l'espace qu'on va lotir là, d'être informés qu'il y aura un lotissement. Donc, généralement, les gens ne sont pas informés. On vient, on les fait. Même toi, le propriétaire des champs, tu viens, tu constates ça. Ensuite, nous interpellons les autorités administratives, les maires. Nous avons plusieurs fois interpellé les maires à travers des lettres que nous écrivons. Par exemple, nous avons eu à constater que pour la plupart des cas, des gens qui ont une parcelle, ils ne peuvent pas vous justifier de tous les documents d'appropriation. Alors que la première sécurité foncière, c'est de posséder de tous les documents. Mais dès que tu as ton acte de cession, même la quittance, les jeunes ne prennent pas ça. Ensuite, nous avons compris que normalement, l'argent, quand tu achètes une parcelle, ça doit être versé au niveau du receveur municipal. Mais ça ne se fait pas.
Monsieur Mamadou Nyandou, connaissez-vous l'existence des conflits fonciers ici à Zender?
Merci. En tout cas, je n'ai pas eu à les gérer directement, mais il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Je me rappelle d'un cas, par exemple, où ça doit être vers midi, je pense bien. Il y avait un monsieur donc, qui a acquis un terrain, je pense bien, coutumier. Il l'a même titré. Maintenant, il est décédé. Lors du partage, c'est revenu à une veuve. Et la mairie a eu à lotir l'endroit encore. Ce qui est un peu curieux même. Et a donné ça à une autre personne. Et je pense bien que le contentieux là, est toujours d'actualité depuis 2018. Quelque chose comme ça. Là. Bon, ce n'est pas à Zender seulement qu'il y a ce problème. Ce problème existe, par exemple, dans presque toutes les villes du Niger. Que ce soit à Maradi, là où j'ai un peu duré, il y en a à Niamey. Ça a commencé d'ailleurs à Niamey. Il y en a à Arlit, il y en a à Agadez, il y en a à Koni, il y en a à Difa, où je n'ai vécu beaucoup, en réalité. Comme les deux précédents ont eu à le dire, c'est qu'il y a effectivement une nébuleuse, une interpénétration des deux acteurs que le docteur a souligné tout à l'heure. C'est que les agents de la mairie, ceux qui sont chargés du service des domaines, avec les intermédiaires, sont en train de devenir, si vous voulez, un corps, entre guillemets, quoi, au point où ils sont en train de défendre leurs intérêts. Franchement, et ce qui amène tous ces problèmes-là, des fois, on a des doublons, on a des retraits, donc illégaux de parcelles, on a des morcellements sans déclassement. Il y en a plein de contentieux de ce genre foncier, quoi.
Je continue avec vous toujours, monsieur Nyandou. Donc, que prévoit la loi en cas de litige et quelles sont les procédures légales à suivre?
Comme a eu à le dire le monsieur dont vous avez recueilli donc le témoignage, normalement, la procédure, c'est chercher d'abord une conciliation, si on peut la trouver. Mais la plupart du temps, quand ça implique, par exemple, donc deux personnes comme son cas, c'est très difficile de trouver une conciliation. Quand la conciliation échoue, on est obligé de saisir donc la justice, mais pas devant le cabinet du procureur comme il a eu à le dire. En principe, c'est devant le président du tribunal. On peut tenter même devant le président du tribunal, on peut tenter une conciliation. Quand ça échoue, eh bien, ça devient carrément une procédure contentieuse et on doit assigner. Donc, on doit prendre un huissier qui doit vous écrire, si vous voulez, une forme de convocation, entre guillemets, quoi. Donc, parce que c'est une lettre en façon, lettre de convocation, qui explique l'origine du litige et ce que veut celui qui initie ce litige-là. Donc, et ça vient devant le tribunal qui est collégialement formé. Et donc, le tribunal va statuer pour voir qui a raison, qui a tort.
Docteur, selon Isabelle, cité par Ibrahim Nouhou dans son mémoire de DEA sur le sujet, les effets des marchés fonciers et expropriation des terres de la ville de Zender en 2009, il dit ceci, je cite, « L'urbanisation accroît les problèmes fonciers et aboutit à des situations conflictuelles entre milieux urbains et milieux ruraux. » Quel est votre commentaire quand on essaie de faire le parallélisme avec la situation que nous débattons?
Effectivement, cette assertion colle parfaitement avec la réalité des villes nigériennes. Comme il a eu à le dire, le problème de gestion foncière se pose dans toutes les villes du Niger. J'aimerais d'abord aborder la question, le prix, l'évolution du prix du foncier. Je vais me baser sur deux textes, l'ordonnance 9950, signé par le président du Conseil de la Réconciliation nationale en 1998. Selon ce texte, cette ordonnance, le mètre carré, c'est 1000 francs à Niamey, 750 francs le mètre carré à Zender et à Maradi, dans les zones traditionnelles. Aujourd'hui, pour Niamey, le prix du mètre carré est de 10 000 francs dans une zone traditionnelle. Ça veut dire que si tu veux avoir une parcelle de 400 mètres carrés à Niamey, il faut débourser 4 millions. Ça, c'est la parcelle produite par la mairie. Et si ça rentre dans les mains d'un spéculateur, qui est le Nigérien qui va débourser 4 millions pour avoir une terre? C'est pas tout le monde. À Zender, ça fait 6 000 francs le mètre carré. D'après la loi 2018, la loi 2018 a multiplié le prix du mètre carré à Niamey par 10, à Zender par 8, en 10 ans, de 98 à 2018. Alors j'aimerais savoir si c'est le revenu du Zenderois qui a été multiplié aussi par 8. Ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, le problème est là d'abord au niveau du prix. Donc ça pose un problème d'accès depuis la loi. C'est pourquoi la société civile avait contesté ça, parce que ce n'est pas une loi qui est favorable à l'émancipation de la population. Et ça a donné ce que ça a donné. Je reviens sur la question des dédommagements. Moi, j'étais dans mes enquêtes, dans le bureau d'un huissier, quand un propriétaire coutumier, on a transformé son champ en parcelle. On lui a donné en dédommagement 4 parcelles. C'est une affaire de 2016. Les 4 parcelles, on lui a donné les actes de cession. Lui, c'est un paysan, il a vendu ses parcelles et il a remis les actes de cession à l'acquéreur. Mais celui qui a acheté les parcelles a été surpris de voir qu'on lui oppose d'autres actes de cession qui sont établis par la même autorité et qui vient lui dire que non, cette parcelle m'appartient. La parcelle I devient la parcelle J. Et l'huissier était furieux. Au point où il m'a montré même ça. Il me dit, bon voilà, toi tu es en train de faire des enquêtes sur le... Voilà, à chaud, un problème que je suis en train de vivre. Et maintenant, l'information foncière, c'est parce qu'il y a un problème d'archivage. Tu achètes une parcelle, tu ne sais pas à la mairie s'il y a même le duplicata. Tu ne sais même pas si sur le registre, ton nom existe. Donc, la publicité dont il a parlé, ça n'existe pas. Et aussi, il y a la brigade de la mairie. Comme tout à l'heure, il me disait, qui doit aller constater sur le terrain ce qui se passe. Souvent, la brigade là va sur le terrain avec des démarcheurs qui n'ont aucun contrat avec la mairie. Et c'est eux qui vont décider que ta parcelle-là ne t'appartient pas, ça appartient à un autre.
Nous allons aller en termes de perspective. Peut-on envisager une gouvernance foncière inclusive au Niger et comment?
Oui, on peut l'envisager. On n'est pas condamné. Il faut la bonne gouvernance. Comme il a eu à le dire, il faut que l'information circule. Il faut avoir une base de données de l'information foncière. Une base de données. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la cybernétique, l'informatique. Nous avons des logiciels qui permettent d'avoir des informations sur toutes les parcelles. Si ce système a été mis en place, nous avons un système cadastral qui fonctionne très mal. Nous avons aujourd'hui les compétences. Nous avons des universités qui peuvent former des gens pour cela. Ce n'est pas le cas. J'ai dit que nous sommes ici depuis d'abord puis l'Université de Zender depuis 2008. On ne nous a jamais envoyé un agent de la mairie pour le renforcement de capacité. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Tout le monde doit accéder à l'information foncière. Tu n'as pas besoin d'aller à la mairie. Quand on te propose une parcelle, dès que tu cliques sur la parcelle, tu vas voir ça a été produit quand par qui a vendu, ça a passé entre les mains de qui et qui, et la mairie va savoir il y a combien de parcelles construites sur son territoire. Il y a une base de données, tout est là et tout le monde doit accéder à cela depuis le Niger, depuis le monde entier. C'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Belgique, et tant qu'on ne fait pas ça, voilà, il y aura toujours des zones d'ombre et ça va favoriser les spéculateurs.
En termes de perspective donc, monsieur le SG, quels sont les défis auxquels vous faites face et comment comptez-vous les relever à court et moyen terme?
Déjà, nous avons commencé et d'amorcer les défis. Vous savez, c'est quand quelque chose maintenant va être précieux que les gens, eux-mêmes ceux qui achètent, eux-mêmes les propriétaires terriens, chacun va essayer de mettre de l'ordre dans ce qu'il a. Si vous prenez d'une agglomération d'à peine 50 000, aujourd'hui nous sommes combien dans cette ville? Recensés, on vous parle de 488 500 000. Mais ceux qui vivent, c'est plus d'1 500 000 parce qu'on le ressent dans tout ce qu'on fait. C'est ce qui a amené généralement tous les problèmes. Aujourd'hui, vous avez des gens, effectivement, ils ont compris le mécanisme. Ils vont chez les propriétaires terriens, dès qu'il y a un lotissement, ils font pression, on leur remet leur acte de cession.
À quand la modernisation, si je peux me permettre du terme?
Nous avons amorcé la modernisation. Le maire, président du conseil des villes, Dr Maman Bachir, a contacté pour faire qu'il y ait un logiciel. Et c'est mettre ce logiciel, il y a un coût, et c'est pas facile. Il faut beaucoup les expérimenter, parce que les gens sont en train de faire l'administration comparée. Qu'est-ce qui se fait à Cotonou? Qu'est-ce qui se fait à Lomé? Prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, les pays que je viens de citer, et les villes là-bas. Vous pensez que vous allez trouver là-bas, la mairie peut vendre une parcelle de 300 000 francs? Non, ça n'existe pas là-bas. C'est des millions, 10 millions, 15 millions, vous allez voir des parcelles. Parce que, effectivement, c'est la modernisation, c'est de l'homme, et maintenant, le respect des textes.
À quand le plan urbain de référence?
Nous avons déjà le plan urbain de référence. C'est le cabinet Ajekro. En plus du cabinet Ajekro, il y a CETIC. Ce sont des habitants de la ville de Zander. Ils ont été soucieux. Ils avaient commencé ça depuis, avant qu'on ne soit aux affaires. Ils sont venus, on a continué, et la ville a un plan urbain de référence. Le plan urbain de référence, vous savez, il est validé en conseil des ministres. Il est en train de suivre la procédure. Nous savons que l'administration repose sur des principes et nous sommes en train de respecter ces principes.
Sadat, en termes de perspective également, quels sont les obstacles d'abord liés à la bonne gouvernance du secteur et comment promouvoir une bonne gouvernance?
C'est d'abord, à mon avis, le non-respect de la réglementation en la matière. Donc, si vraiment ces commissions-là fonctionnent, ça permet vraiment de réunir presque tout le monde au sein de la commission. Ça va vraiment permettre de faire quelque chose de consensuel. Et puis, l'analyse technique aussi, c'est important. Parce que généralement, lorsque les propositions qui ont été faites par ces commissions ne sont pas techniquement bien faites, elles sont renvoyées pour être corrigées. Tout ça là, dans le but d'éviter les difficultés. Donc, vraiment, de respecter la réglementation en la matière. Ensuite, de renforcer la capacité des services techniques au niveau des collectivités territoriales. On constate que malheureusement, au niveau de ces services-là, il n'y a pas vraiment assez de compétences, il n'y a pas assez de ressources humaines qui sont bien formées pour le travail. Moi, je trouve que le système d'intermédiaire ici, il est plus informel. Vous allez voir que parfois, c'est même des conseillers municipaux en violation du code général des collectivités territoriales qui se donnent à cette pratique, qui vendent les parcelles. Nous en avons vu. Il faut que la mairie ait une véritable base de données sur la base des autorisations qui leur sont faites et qu'ils doivent eux-mêmes s'assujettir au paiement de certaines fiscalités telles que prévues par la loi. Tout ça là, donc, on contourne la loi et on permet à des individus qui ne sont pas connus par la loi d'exercer dans ce domaine. Et parfois, tous les problèmes de doublons sont liés à l'intervention de ces intermédiaires-là. Et pour ce qui est du renforcement de la capacité technique du service, c'est surtout d'amener, comme il a dit, il y a des outils modernes de gestion qu'il faut intégrer vraiment dans nos chambres de gestion au niveau de nos collectivités.
Monsieur Mamadou Niandou, pour finir avec vous, quels moyens de recours dispose la population en cas d'insatisfaction d'un arrêt rendu ou un échec de conciliation?
Quand un litige est né entre des acteurs ou bien entre deux individus sur peut-être une parcelle, ils doivent d'abord chercher une conciliation, un règlement à l'amiable entre eux. S'ils n'ont pas pu avoir un terrain d'entente, ils peuvent impliquer une autre personne qui peut leur faciliter le règlement, peut-être la mairie, peut-être une autre personne. Lorsque tout ça a échoué, nous avons dit qu'ils peuvent venir devant le président du tribunal, de grande instance de Zender, pour d'abord essayer de trouver un terrain d'entente. Mais si le président aussi n'a pas pu les concilier, nous avons dit donc qu'ils vont passer à la vitesse supérieure, quoi, celle qui consiste donc à venir en jugement. Maintenant, lorsque le tribunal va donner sa décision et que l'une des personnes n'est pas d'accord, elle peut contester cette décision en exerçant ce qu'on appelle un appel, une voie de recours. La première voie de recours, c'est l'appel contre donc le jugement qui a été rendu. Ça va venir donc au niveau de la cour d'appel. La cour d'appel va aussi statuer. Si la personne n'est pas d'accord, elle fait ce qu'on appelle un pourvoi en cassation contre donc l'arrêt, la décision rendue par la cour d'appel.
Voilà, nous sommes à la fin du forum d'aujourd'hui sur le thème gestion du foncier de la ville de Zender. Quel défi pour une meilleure gouvernance du secteur? Nous avons vu que la ville de Zender croît à un rythme très rapide. Le retrait des actes de cession, on a vu, doivent suivre une procédure avec un comité de 4 personnes. Environ 2900 parcelles sont produites en moyenne à Zender, alors que le besoin réel tourne autour de 1100 parcelles par an. Il y a donc une insécurité foncière très présente. Le chercheur a parlé tout à l'heure d'au moins 400 parcelles à problème ici à Zender. La spéculation existe beaucoup autour de ce foncier. Nous étions avec Dr Adamou Abdoulaye, géographe urbain, chercheur à l'université de Zender. Sadat Ilia Damalam, géographe, acteur de la société civile. Et donc M. Mamadou Niandou Boubacar, il est conseiller à la cour d'appel de Zender. Merci et au revoir.